Ici Sophie Bouchard-Tremblay, bienvenue au sixième épisode du balado Après Gabriel. Après Gabriel part à la rencontre de femmes déterminantes dans la communauté franco-manitobaine qui ont toutes été inspirées chacune à leur manière par la vie et l'œuvre de l'autrice Gabrielle Roy. En 1940, Gabrielle Roy devient journaliste au Québec. Elle mentionne des années plus tard lors d'une entrevue que le journalisme fut une excellente école. Elle parcourt toute la province pour y écrire des articles dans le bulletin des agriculteurs.
Il y eut un matin indécis et lourd d'orage où je découvris la terre vivante de Gaspésie. Et c'était sur mer, et c'était presque la nuit encore. Alors l'autre a reculé bien loin, la Gaspésie des automobilistes, des touristes et des petits stands d'abricoles. La Gaspésie reprenait son beau visage humide, rafraîchi par l'aurore. Elle me disait son vieil effort. Effort patient, courageux, constant, ancien déjà, et repris à la même heure depuis des générations par des hommes qui se ressemblent. Depuis si longtemps qu'ils se lèvent tôt, en tout temps, de bourrasque et de clémence, les pêcheurs de Gaspésie ont acquis l'habitude de regarder les étoiles et le soleil levant et le fin pointillé des vagues sous les gouttes de pluie. Et cela leur a fait une même âme sage et en même temps fraîche comme l'aube elle-même. Cette vérité m'est devenue visible et claire à travers le père Elias Langlois. Sur ses traits, à travers des perles de pluie, luisait le visage de son pays.
Reportage sur les pêcheurs de Gaspésie, paru sous le titre « Une voile dans la nuit », 1944. Gabrielle Roy publie son premier reportage dans le journal « Je suis partout » lors de son séjour en Europe. Elle y traite du Canada et de la collectivité francophone au Manitoba. C'est à son retour au Canada que Gabrielle Roy commence sa carrière journalistique. Elle écrit au Bulletin des agriculteurs, un journal mensuel toujours publié à Montréal, mais diffusé surtout dans les régions rurales. Elle signe des textes déjà hautement prometteurs. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'elle publie son premier roman, Bonheur d'occasion. Je rencontre aujourd'hui Martine Bordelot. Martine Bordelot est une personnalité à la carrière foisonnante. Elle a accumulé plus de 35 ans d'expérience dans les médias au Manitoba, en France et en Afrique. Martine a porté de nombreux chapeaux lors de sa carrière. Journaliste, animatrice, présentatrice, chroniqueuse et gestionnaire en marketing des communications. Elle est d'abord connue comme animatrice à Radio-Canada Manitoba, aux émissions du matin et du retour à la maison. Elle poursuit son chemin en s'impliquant activement dans la communauté franco-manitobaine. Bonjour Martine, c'est un plaisir de vous rencontrer. Débutons tout d'abord avec une introduction à votre sujet. Vous êtes originaire du Québec. Voudriez-vous nous raconter votre parcours avant votre arrivée au Manitoba?
Oui, moi j'ai fait le chemin inverse de Gabrielle Roy. C'est sa petite rue qui l'a menée autour du monde. Moi, c'est après être allée autour du monde que je me suis retrouvée dans sa petite rue ou juste à côté parce que j'habite la rue d'à côté. J'ai étudié en communication à Montréal. Ensuite, je suis allée vivre en France pendant 5 ans où j'ai fait mon métier et à l'animation et au journalisme, à la radio surtout. Puis ensuite, je suis allée passer 2 ans au Cameroun, à Douala, comme correspondante pour la radio, mais j'ai aussi écrit dans les journaux et magazines locaux. Puis ensuite, concours de circonstances, la vie m'a ramenée à la maison. Pour pouvoir travailler, continuer à travailler dans mon métier, mais chez moi. Alors, je suis revenue vers le Québec, vers Montréal, mais ça ne s'est pas passé comme je pensais. On me disait que, comme je n'avais pas d'expérience locale, que ça ne fonctionnerait pas. J'ai même été refusée comme bénévole à une radio communautaire. Alors, j'imagine qu'ils avaient tout leur monde à ce moment-là. Alors, finalement, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver un poste de 3 mois ici pour animer ce qu'on appelle aujourd'hui le téléjournal, qui était ce soir à Manitoba, donc à la télé pour Radio-Canada. Puis 3 mois se sont transformés en plus de 32 ans maintenant. Et toujours dans le métier de journalisme, d'animatrice aussi, et avec une petite pause là-dedans de 7 ans où j'étais dans le monde du marketing puis de la publicité.
C'est donc un concours de circonstances qui vous a mené au Manitoba.
Oui, absolument. Le Manitoba, je ne connaissais presque pas, comme beaucoup, beaucoup de gens à l'extérieur de la province. Puis je ne vais pas nommer juste le Québec parce que c'est le cas pour les gens un peu partout au pays et dans le monde, surtout le Manitoba français. Gabrielle Roy, je l'ai lu. J'ai lu qu'un seul roman avant d'arriver au Manitoba. C'était Bonheur d'occasion et ça nous a été forcé par notre prof de français au secondaire. Et l'expérience était, bien, c'est une belle écriture, mais à cet âge-là, 17-18 ans, c'était un livre très déprimant, très difficile. C'était très difficile d'affronter d'ailleurs toutes les vérités sociales qu'elle nous racontait dans ce livre-là. À cet âge-là, on a envie de bonheur, d'amour, puis de découvertes beaucoup plus positives à cet âge-là. Alors, je n'étais pas dans cet esprit-là. Et donc, après ça, j'ai laissé de côté son œuvre. Je n'ai pas pris le temps de découvrir son œuvre davantage. Puis tout comme avec Henri Bergeron, qui m'a enseigné d'ailleurs quand j'ai étudié en communication, il m'a enseigné le français, tout comme Daniel Lavoie, moi, comme les gens qui étaient dans l'Est puis ensuite en France, je les imaginais tous québécois. Et alors, j'ai fait la découverte du Manitoba en arrivant ici à travers ses œuvres aussi en même temps. Là, tout d'un coup, j'ai découvert qu'elle venait d'ici, qu'elle avait écrit des choses d'ici. J'ai lu « Rue des Chambeaux », j'ai lu aussi « La détresse et l'enchantement », puis après ça, plusieurs autres de ses romans, et qui m'ont fait découvrir le Manitoba d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, parce que ce que j'ai découvert dans son écriture, c'est surtout sa force de nous raconter le quotidien des gens, et pas juste de nous raconter un paysage puis une population, mais ce que vivent ces gens-là à travers leurs défis. Puis je parle de défis parce que beaucoup des personnages qu'elle nous raconte sont des personnages qui, venant de l'immigration par exemple, ou venant de minorités comme les francophones ici, qui ont des souffrances qui traînent derrière eux et qu'ils essaient d'en guérir en continuant leur vie dans le milieu dans lequel ils ont choisi ou non. Là. Alors, donc là, j'ai fait une autre découverte de Gabrielle Roy à ce moment-là, et du Manitoba français, bien sûr.
Est-ce que la lecture de Gabrielle Roy a facilité votre immersion dans la communauté franco-manitobaine?
En partie, oui. Ça a beaucoup aidé ses lectures, surtout dans son autobiographie, bien sûr, « La détresse et l'enchantement ». Elle fait là un état des lieux pour les francophones qui est réaliste, presque militant, en fait. C'est presque un coup de semonce qu'elle dit aux gens en leur disant « On a un grand risque d'être assimilé puis disparaître pour de bon. Il faut faire quelque chose. » Puis elle le fait à sa façon, en fait, comme artiste littéraire, en écrivant sur ces situations-là. Comme elle le fait dans Bonheur d'occasion, en dénonçant la pauvreté de certains groupes de gens à Montréal, dans le quartier Saint-Henri. Et donc, ce sont des découvertes parallèles que je faisais. Puis au fur et à mesure qu'on découvre Gabrielle Roy, quand on vit au Manitoba français, on découvre les Annette Saint-Pierre, les Réal Bérard, tous les autres artistes et les autres personnes qui naviguent autour, les gens comme Carole Harvey ou Doris Lemoine qui ont écrit sur elle et qui ont écrit des belles choses d'ailleurs. Je lisais encore, avant d'arriver ici pour l'entrevue, il y a un livre qui a été fait en 2008 pour les 100 ans de Saint-Boniface. Eh bien, un très grand chapitre consacré à Gabrielle Roy qu'André Fauchon et Carole Harvey ont écrit. Parce qu'à travers ses écrits et son histoire, on raconte une bonne partie de Saint-Boniface. Les années 20, 30, 40, 50, là, évidemment, la période où elle était ici. Alors oui, c'était une découverte. Ça me permet de découvrir plus en profondeur les racines aussi de tous ces francophones qui sont établis ici.
Avez-vous eu la chance de lire des articles qu'avait écrit Gabrielle Roy?
Elle a un livre en particulier que j'ai revisité récemment, « Fragile lumière de la terre ». C'est un condensé, en fait, de son œuvre journalistique. Il y a quelques articles là-dedans et qui montrent très bien la façon dont elle faisait son journalisme. Alors, on s'attend... Plusieurs de ses articles sont des articles qu'elle a écrits pour le Bulletin des agriculteurs au Québec, qui était un de ses grands employeurs à l'époque comme journaliste. Et on s'attend à lire des articles sur l'état de la récolte du blé en telle année ou telle maladie qui peut atteindre les récoltes et tout ça, mais c'est pas du tout ça. Elle brosse des portraits très réalistes des gens qui vivent dans ces communautés rurales. Les Utérites, les Juifs en Saskatchewan, quand on lit Gabrielle Leroy, on découvre les Juifs, qu'il y avait une communauté très forte de Juifs en Saskatchewan là, qui s'est développée. Dans ces années-là, là je parle des années 40, c'est ces années-là qu'elle couvrait comme journaliste. Puis on découvre ici des coins reculés au Québec, la Gaspésie, la Abitibi, à l'époque c'était des coins reculés. Ça l'est encore un petit peu, mais on a des moyens de transport plus adaptés aujourd'hui, puis des routes. Alors là, ce qu'on lit vraiment, ce sont des récits de gens. C'est là qu'on découvre tout son humanisme. Elle a une façon de s'attacher à ces gens-là, et elle avait probablement beaucoup de charisme auprès de ces gens-là, parce qu'elle arrivait seule. Là, on parle des années 40, une femme arrive seule, avec son carnet, elle arrive du bout du monde, pour certains d'entre eux, certaines d'entre eux, puis elle dit « Ouvrez-moi votre maison, ouvrez-moi votre communauté, j'aimerais vous raconter. » Alors, ça n'a pas dû être facile dans les communautés très fermées comme les Utérites, par exemple. Mais elle le fait, puis elle le fait très bien. Et ce qu'on lit aujourd'hui sur ces communautés-là, elle les a écrits il y a 70 ans de ça, c'est encore très actuel. Peut-être que la vie comme telle a changé. Les Utérites, par exemple, utilisent beaucoup l'informatique. Aujourd'hui, ça n'existait pas dans ce temps-là, mais ils utilisaient des appareils agricoles très modernes. Mais les personnes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, le tiraillement entre leur vie de communauté et celle de l'extérieur qui est attirante, ça existe toujours aujourd'hui. C'est très humain ce qu'elle fait comme travail. Puis l'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que il n'y en avait pas beaucoup des comme elle. Des femmes journalistes qui parlaient d'autre chose que de recettes de cuisine ou de conseils pour les ménagères dans les journaux, il n'y en avait pas beaucoup. Et elle en faisait partie. J'ai découvert, entre autres, qu'elle avait été envoyée comme reporter spécial pour couvrir la construction de la route de l'Alaska au début des années 40. Puis c'était une route stratégique qui, les Américains et les Canadiens voulaient s'assurer qu'il y avait une route qui menait vers le Pacifique par laquelle on pouvait aller défendre le continent si les Japonais, pendant la guerre, s'approchaient trop du pays. Et elle a couvert ça, ce travail-là de tous ces ouvriers qui ont, dans un temps record, construit une route extraordinaire là, pour se rendre vers l'Alaska, de la Colombie-Britannique. Alors ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça a dû être quelque chose de se faire accepter, d'ailleurs, par certains milieux où c'est très masculin. Et elle l'a fait. Et elle le fait très bien, d'ailleurs. Si on lit ses écrits de journalistes, là, on les savoure autant que ses romans.
Si on se tourne vers votre propre carrière journalistique, vous avez travaillé pendant de nombreuses années avec Radio-Canada. Voudriez-vous nous parler de votre expérience?
Radio-Canada, quand on veut faire du journalisme, quand on veut faire de l'animation radio, télé, quand on veut travailler dans ce milieu-là, de la radio, de la télé, puis maintenant le web est inclus dans tout ça, ça ne l'était pas quand j'étais plus jeune, on aspirait presque tous à travailler à Radio-Canada. C'était comme l'endroit rêvé où on allait faire une grande carrière. Les grands noms étaient là. Les Aline Desjardins, les Bernard de Rome étaient à Radio-Canada. Alors, on voulait, nous, devenir ces personnes-là après eux ou pendant leur carrière. Ça dépend. Avec Bernard de Rome, ça lui a pris du temps de prendre sa retraite. Alors, Et Henri Bergeron, bien sûr. Il a commencé à CKSB ici à l'époque où c'était les débuts puis c'était pas encore Radio-Canada, mais il a quand même cheminé après ça pour devenir une des plus grandes personnalités de Radio-Canada. Alors, le rêve, c'était vraiment de travailler là. Et puis, dans tout mon cheminement, avant d'arriver au Manitoba, je n'ai pas réussi à travailler à Radio-Canada, mais ici, on m'a donné cette chance-là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai découvert un milieu très créatif, même si on est très limité par une rigueur journalistique. Il y a quand même de la place pour la création, les arts, et pour découvrir la communauté, c'est un bon moyen de découvrir la communauté. C'est un moyen très rapide de connaître les gens. Quand on part en reportage tous les jours pour couvrir un événement culturel, par exemple, bien là, la communauté culturelle, on la découvre très vite. Quand on fait des émissions où on interview des gens tous les jours, des centaines d'entrevues par année, on la découvre, la communauté, très vite. Alors, il y a eu aussi cette opportunité pour moi de travailler pour cette belle grande maison de Radio-Canada, mais aussi de découvrir plus à fond la communauté que j'avais adoptée en arrivant ici. Alors, c'était une belle expérience. Je suis vraiment très fière de cette partie-là de ma vie.
Tout comme Gabrielle Roy, vous êtes reconnue, vous aussi, Martine, pour avoir créé des entrevues très humaines.
C'est ça qui m'a attirée dans ces écrits journalistiques, c'est que j'ai compris que j'étais sur la bonne voie quand je lisais ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. On peut parler d'un jardin pendant des heures de temps et décrire toutes les fleurs, décrire les couleurs, mais c'est les personnes qui ont permis à ce jardin de devenir une beauté qui sont intéressantes. C'est leur parcours, leurs défis, leur bonheur, leur tristesse. C'est les humains qui sont intéressants. Et tous les humains ont au moins une histoire à nous raconter. Alors, c'est à partir de ça que je me préparais pour mes entrevues. Il n'y avait personne de plate. Tout le monde avait quelque chose d'intéressant à raconter. Et il fallait donc travailler pour mon travail. C'était de leur faire ressortir puis de leur permettre de raconter leurs histoires. Puis c'est ce qu'elle faisait dans ses écrits aussi. Et même dans ses romans, dans Rue des Chambeaux, dans Ses enfants de ma vie, par exemple, elle raconte les histoires de gens. Puis souvent, des gens qui viennent de milieux très difficiles, défavorisés, des immigrants qui ont de la difficulté à s'intégrer, des enfants qui ont de la difficulté à s'intégrer au monde des adultes aussi. Puis c'est ces personnes-là, on s'attache à ces personnes-là. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on peut s'attacher au personnage. Et là, on a juste envie qu'ils soient nos frères, nos sœurs. On a envie qu'ils fassent partie de notre famille. Puis c'est ce sentiment-là qu'elle nous donne avec ces personnages. Il y a une dame, entre autres, dans une de ses petites nouvelles qui n'est pas tellement connue, qui s'appelle « De quoi t'en imites-tu, Evelyne? » Et c'est l'histoire d'Evelyne qui, pour des raisons familiales, doit traverser tout le continent jusqu'en Californie en autobus. Et ce n'est pas vraiment la destination qui est intéressante, c'est tout ce qu'elle découvre d'elle-même et des autres pendant son voyage en autobus. C'est formidable. On veut tout avoir une Evelyne dans notre famille. Beau, beau personnage. Alors, elle avait ce don de rendre les gens non seulement sympathiques, mais attirants aussi.
Bien, vous avez d'ailleurs participé à l'enregistrement audio de cette nouvelle. Vous étiez narratrice.
Oui, c'est comme ça que je l'ai connue, parce que c'est une des nouvelles les moins connues de Gabrielle Roy. Puis si je ne me trompe pas, elle a été publiée après sa mort. Alors, ça ne faisait pas partie de son répertoire populaire qui l'a rendu plus célèbre depuis bonheur d'occasion. Puis, c'est vraiment une belle... Je la suggère à tout le monde, parce que d'abord, elle est courte, c'est pas très long à lire. Puis c'est une belle histoire. Il y a beaucoup de chaleur humaine dans cette histoire.
En effet, Gabrielle Roy a une écriture subtile, autant à la lecture qu'à l'écoute.
Qui est très vivante, oui. Parce qu'elle y décrit les gens, elle y décrit les paysages, elle y décrit les sentiments qu'elle ressent en voyant toutes ces choses-là, souvent comme narratrice ou à travers ses personnages. Oui. Alors ça se raconte... Bien, d'ailleurs, Bonheur d'occasion a été transposé à la télé de façon assez extraordinaire, puis c'était une histoire qui pouvait se vivre en images facilement. Donc, j'espère qu'on n'a pas fini de voir ses œuvres à la télévision, à la radio, au cinéma, parce qu'il y a d'autres œuvres qui ont été mises de côté qui pourraient être très réussies sous d'autres formats.
Martine, vous êtes très impliquée dans la communauté dans divers projets, tels que, par exemple, Cinémental, qui est le festival de films francophones ici au Manitoba. Pourriez-vous nous en parler?
Cinémental, ça fait longtemps déjà. Ils fêtent pas loin d'être 30 ans maintenant. Alors, j'étais surtout impliquée au début pour la création du festival puis la coordination. Alors ça, c'était un beau projet. Je suis très contente de ça. Même si, à l'origine, le but de Cinémental, c'était de disparaître, parce qu'on n'aurait plus besoin d'un festival une fois par année si on avait un cinéma où on présentait des films en français. Mm-hmm. Mais ça ne s'est pas concrétisé pour toutes sortes de raisons. Alors, Cinémental continue d'exister. On a au moins quelques jours par année du cinéma en français ici, parce que l'idée de Cinémental, c'était de ne présenter que des productions qui ont été faites en français, d'abord. Quelles que soient leurs origines, Pas des traductions, on ne présentait pas des films faits en anglais traduits. Il fallait que ce soit des productions en français. Alors, y avait des gens qui nous disaient dès le début, « Ah, oh, ça va être difficile, il n'y en a pas tant que ça. » Puis finalement, c'est le contraire. Il y a eu une émergence du cinéma au Québec puis en France, entre autres, qui a permis de développer ce cinéma-là. Il y a des pays africains francophones aussi qui ont développé leur cinéma. Les chaînes télé qu'on continue, comme les Netflix de ce monde, ont donné le goût aux gens d'aller voir du documentaire. Alors ça permet également de développer des maisons de production qui font du documentaire en français. Ici, on a au moins 3 maisons de production qui font de la télé, fiction documentaire et du cinéma en français. Donc, c'est pas mal impressionnant. C'était un très, très beau projet. Les autres projets, je fais surtout du bénévolat ponctuel parce que j'ai de la difficulté avec faire partie d'un conseil d'administration. Je ne me plais pas à m'asseoir autour d'une table une fois par mois à parler. J'aime autant être dans l'action. Alors, je préfère faire ça. C'est ce que je fais de façon ponctuelle, entre autres, avec Francophon, avec le Centre Flavie Laurent. Puis j'en oublie. Mais ça aussi, c'est une bonne façon de connaître la communauté, de s'approcher de nouveaux groupes de gens aussi, puis d'apprendre à les connaître, puis de se faire des nouveaux amis. Puis là, j'en fais, maintenant que je ne suis plus avec Radio-Canada, j'en fais avec Envol aussi, avec la radio communautaire. Alors, ça me permet de me remettre un petit peu dans le bain de la radio, mais sans trop de pression, puis à faire ce que je veux, quand je veux. Puis, oui.
Martine, vous êtes également très impliquée dans la communauté en tant que féministe?
Ça aussi, c'est venu tard dans ma vie. J'étais observatrice, comme beaucoup de femmes, de ce qui se passait autour de moi, des choses qui nous choquaient ou des choses qui nous enchantaient quand il y avait des bons développements. Puis Gabrielle Leroy, d'ailleurs, elle en faisait partie de ces femmes. Parce qu'elle dénonce dans ses livres la condition des femmes comme sa mère, qui avait des rêves qu'elle ne peut pas réaliser parce qu'on l'oblige à des responsabilités entourant la famille, à la maison, dans la cuisine. Elle dénonce ces choses-là, puis elle-même a une vie indépendante et osée, provocatrice presque pour l'époque. C'était pas très bien accepté, une femme qui vivait de façon indépendante, qui faisait ses propres choix et qui décide de façon volontaire ou non, mais de ne pas avoir de famille. La femme était faite pour avoir une famille hein, dans ces années-là. Alors, moi, j'ai observé, comme toutes les femmes de mon âge, celles qui nous précédaient, ma mère, mes grands-mères, les femmes autour de moi. Puis, je voyais jusqu'à quel point on était en train d'évoluer de façon extraordinaire, qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Puis, avec chaque nouvelle génération, je le vois avec mes filles, on a une éducation à continuer à faire parce qu'on peut régresser facilement. Et dans nos mentalités, dans notre législation aussi, il faut faire. Oh, tout n'est pas gagné pour de bon. Il faut toujours se battre. Alors, tard dans ma vie, je me suis dit, OK, comment je vais faire pour pouvoir aider la cause? Puis, quand j'étais à Radio-Canada, pendant une grande partie de ma carrière, je ne pouvais pas m'engager dans des causes qui étaient plus politiques ou politisées à cause de mon devoir de réserve. Mais là, j'ai plus besoin d'avoir ce devoir de réserve. Et puis, la meilleure façon que j'ai trouvée pour l'instant, puisque les réseaux sociaux sont populaires, c'est de créer un groupe dans Facebook qui s'appelle Manitobaine et féministe et qui permet simplement aux gens, tout le monde peut s'y inscrire, de pouvoir échanger des informations, échanger des ressources, partager leurs opinions. Et je me suis dit, c'est dans le dialogue d'ailleurs qu'on avance comme communauté, alors ça permet d'ouvrir le dialogue. Et c'est ce que, pour moi, qui est le plus important. Autrement, ça ne me vient pas en tête ce que je fais. À part d'éduquer mes filles puis les garçons autour de moi, dans la famille, parce que c'est important, avec l'expérience qu'on acquiert avec les années, de pouvoir ensuite les transmettre et faire réfléchir les gens. Je ne dis pas à mes filles ce qu'elles doivent penser puis comment elles doivent vivre, mais j'essaie d'avoir des discussions avec elles pour qu'elles puissent développer leur propre pensée critique et se situer dans le monde d'aujourd'hui comme un être humain et pas seulement la femme qui ferait que ça selon le regard des autres. Donc, déjà là, c'est un gros travail.
Cette année, vous avez participé à une production théâtrale, Anne Frank entre lumière et ténèbres. Vous avez travaillé à l'adaptation française de cette pièce de théâtre qui a été présentée sous format virtuel en partenariat avec le Théâtre Cercle Molière. Je me demande, est-ce que ça devait se passer sur scène?
Ça devait se faire sur scène, mais évidemment, les circonstances de la COVID ont fait qu'on a dû l'enregistrer. L'avantage de tout ça, c'est que ça a permis, en étant en ligne gratuitement, d'être vu par plein de gens qui ne pouvaient pas le voir en personne s'ils étaient ailleurs qu'à Winnipeg. Ça fait très longtemps que je mijote ça, ce projet-là, que je voulais faire quelque chose à propos d'Anne Frank. Puis je ne sais pas d'où ça vient, cet intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la Shoah, pour le sort des Juifs, parce que moi, je n'ai pas du tout d'antécédents juifs dans ma famille. Pas du tout, du tout. Donc, chez nous, on est catholiques jusqu'au bout des ongles, dans toutes les générations avant moi. Mais c'est juste l'incompréhension d'en être arrivé là, dans les années 30, puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale, et ce massacre épouvantable. Puis ensuite, le problème, c'est qu'on n'a pas appris de cette histoire. Il y a eu d'autres massacres après ça. Quand j'écoute, j'ai une amie qui vient du Rwanda, et quand j'écoute ce qu'elle me raconte sur ce qu'elle a vécu pendant le génocide du Rwanda, on ne peut pas imaginer que ça puisse passer à travers la tête des gens, de massacrer les autres, juste parce qu'il y a une différence entre les deux, puis parfois pour aucune raison. Alors, je ne sais pas, ça me touche beaucoup, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est le sort des Autochtones qui nous marque, puis ça, je suis en colère beaucoup, beaucoup en ce moment à cause de ça. En colère d'avoir fait partie d'une communauté blanche catholique qui a perpétré des événements, des actes, et qui nous a gardés dans le silence et dans l'ignorance. Et donc, on n'a pas pu agir. Maintenant, on peut agir. C'est très tard pour beaucoup de gens. C'est trop tard pour beaucoup de gens. Puis, on a un gros, gros travail à faire de ce côté-là aussi. Alors, Anne Frank, ben, c'était juste l'idée de... Puis après avoir vu une pièce de théâtre qui a été présentée en 2016 à Winnipeg, où dans laquelle on revisitait la vie d'Anne Frank en la rendant survivante de la Shoah. Et elle était à New York, puis elle essaie de publier son journal, puis ça ne marche pas. Alors, elle a ce syndrome de la survivante. C'est vraiment une très, très belle pièce de théâtre d'Alex Sobler. Alors, c'est la traduction que j'ai faite de deux extraits de sa pièce. Puis en parallèle, dans le spectacle, on lisait, on avait une jeune fille, Amélie Tétrault, qui lisait des extraits du journal d'Anne Frank. Alors, ce mélange-là avec la musique a permis de... L'idée, c'était de faire réfléchir les gens sur ce qui avait été vécu, ce qui aurait pu être vécu, puis comment on dans l'avenir, comment on se sert de cette histoire-là dans l'avenir pour être des gens meilleurs. Alors, c'est... Et puis, en faire quelque chose de créatif aussi en même temps, là, évidemment. Il y a un petit bout de divertissement là-dedans, là, sinon les gens n'auraient pas d'intérêt à le suivre. On ne faisait pas un cours d'histoire. Mais, oui, je suis contente de ce beau projet.
Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez aborder?
Il y a juste un élément que je trouvais intéressant. J'y ai beaucoup réfléchi dans les dernières... semaine sur l'inspiration que représente Gabrielle Roy. Dans ma vie professionnelle, ce qu'elle a inspiré, c'est d'exiger la qualité de la langue dans tout ce que je fais. Elle a vraiment une écriture, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai mentionné tout à l'heure, remplie de compassion, très humaine, mais c'est aussi la qualité de la langue. C'est extraordinaire comment elle peut, avec simplicité, raconter des choses en utilisant toute la richesse de la langue française. Alors ça, quand on la lit, ça nous inspire à aller dans cette direction-là.
Bien, ce qui nous mène à la dernière question. Qui est Gabrielle Roy en 2021?
Malheureusement, elle n'est pas assez visible, assez connue en 2021. Je ne suis pas sûre que dans les écoles ou chez les jeunes générations, qu'on soit au Manitoba ou ailleurs, on la connaisse beaucoup. Elle est très connue dans les milieux littéraires, dans les gens qui s'intéressent à la littérature, dans les universités. On l'étudie à certains niveaux. Il y a encore plein de gens qui font des thèses sur elle, puis ça, c'est passionnant d'aller lire ça en ligne. Il y en a beaucoup, beaucoup qu'on peut trouver en ligne. Mais pour le grand public, je ne sais pas si on dit qui est Gabrielle Roy, si les gens peuvent répondre. J'en doute qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent nous dire « Je sais qui elle est, ce qu'elle a fait, j'ai lu au moins une de ses œuvres. » Puis je pense qu'en relisant ses œuvres pour me préparer aujourd'hui, je réalise jusqu'à quel point elle est contemporaine dans ce qu'elle a fait et qu'elle pourrait être une auteure, autrice d'aujourd'hui en nous livrant ses œuvres. Ses œuvres ne vieillissent pas. Elles sont encore très belles, elles sont encore d'actualité dans certains cas. Puis son écriture est très, très belle, très poétique aussi. C'est ça, c'est que même dans ses écrits journalistiques, des fois, c'est des vrais petits morceaux de poèmes, de prose extraordinaires là, dans laquelle elle nous racontait des vies qu'elle croisait. Alors, j'aimerais ça qu'elle soit plus présente, qu'on la sorte de la maison Gabrielle Roy, puis qu'on la présente ailleurs davantage. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est une belle initiative. La série qui va sortir, là, qu'on est en train de filmer, c'en est une aussi. Et je trouve très contente de ce regain. L'entente avec la maison Colette aussi va permettre de la sortir de sa maison pour aller voyager ailleurs. Elle qui adorait les voyages, ce serait formidable qu'on la fasse voyager davantage. Parce que je trouve qu'on n'entend pas suffisamment son nom quand on parle de littérature. Puis, c'est pas la seule, malheureusement, les Margaret Lawrence de ce monde, du côté anglophone aussi, on les nomme pas beaucoup. Et le monde littéraire est aussi un monde d'hommes. On met de l'avant beaucoup plus les auteurs masculins que les auteurs féminins, de façon générale. Alors, ce serait le temps qu'on change ça aussi. Puis qu'on ait plus peur de parler des autrices en littérature davantage.
Je suis tout à fait d'accord. Bien, merci, un énorme merci. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Ainsi se conclut notre entretien avec Martine Bordelot. Dans le prochain épisode, nous explorerons la région de Charlevoix au Québec qui fut très chère au cœur de Gabrielle Roy, accompagnée de la comédienne Marie-Ève Fontaine. Après Gabrielle est une production et une création originale de la maison Gabrielle Roy. Je suis Sophie Bouchard-Tremblay, animatrice, co-scénariste et co-recherchiste. Après Gabrielle ne serait pas possible sans toute notre équipe. Robert Pietlaine à la composition musicale, à la prise de son et au montage sonore, Carole Ménéguel à la narration et Anne Brazo, assistante du patrimoine et co-recherchiste. La Maison Gabrielle Roy remercie les provinces du Manitoba et du Québec, ainsi que Patrimoine Canada pour leur soutien généreux. La Maison Gabrielle Roy remercie le Fonds Gabrielle Roy pour son aimable autorisation de l'utilisation des extraits de l'œuvre de Gabrielle Roy, ainsi que le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour les ressources et les recherches. Merci au Bulletin des agriculteurs.